Ici Paris, Radiodiffusion française présente...
Le témoin de ce vendredi, Beckett. 6500 km à pied à la recherche du patrimoine.
Ce qui s'apprend, ce n'est pas d'avancer, ce n'est pas d'aller d'un endroit à un autre, c'est de regarder en se mettant à l'unisson de ce qui est autour de soi, par exemple le temps. Aujourd'hui, si on ne marche plus, c'est pas parce qu'on ne sait plus, c'est parce que c'est un temps qui est déjà beaucoup trop long par rapport à la vie d'aujourd'hui, la vie moderne.
Jacques Lacarrière, c'est lui qu'on vient d'entendre, avait redonné le branle dans les années 1970. Aujourd'hui, le voyage à pied en France est très couru. Qu'on pense à Jacques Lassalle, le député chantant, ou à Axel Kahn, le généticien ardent. L'un et l'autre, inquiets de voir le pays se défaire, ont tenté de le resserrer en faisant le grand effort de le tenir dans une boucle. La guerre, la carrière... Chemin faisant, pouvait éprouver une certaine jouissance à fréquenter la laideur française. Sans doute a-t-elle gagné du terrain. En tout cas, notre témoin, lui, a pris le parti de chercher ce qui lui paraît incomparablement beau et injustement méconnu, les monuments de tout genre de notre patrimoine, les délaissés surtout. Beaucoup plus jeune que ne l'était la carrière, il a accompli un voyage 6 fois plus long, en 363 étapes. C'était... L'an de grâce 2014, il avait 25 ans. C'était aussi le centenaire de la grande loi de protection de 1913. Celle-ci, dans un souci encyclopédique, avait créé l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. Il y ajoute son inventaire personnel.
La marche de l'histoire. France Inter, Jean Lebrun.
Quand on marche à pied, disait Lacarrière, le nom des lieux qu'on joint, c'est très important. Alors c'est l'usage de vous appeler Beckett. Je vous dis donc bonjour, Beckett.
Bonjour, Monsieur Lebrun.
Oh non, pas de Monsieur Lebrun. Autrement, je vais être obligé de vous appeler Monsieur Beckett. C'est très important, les paysages d'enfance, parce que c'est ça qui forme l'œil. C'était beau, là, où vous avez passé votre enfance ?
Non, pas tellement. J'ai vécu entre les immeubles et je me sentais comme un peu oppressé. Esthétiquement, c'était pas les plus beaux paysages que j'ai vécu.
Alors, vous avez fait des études d'histoire, d'archéologie... Vous aimeriez faire de l'archéologie navale?
Oui, c'était un rêve d'enfance et qui continue d'être un rêve aujourd'hui.
Et puis, à la différence de beaucoup de journalistes, alors que vous avez une formation historienne, vous avez décidé d'aller y voir, parce qu'il y avait les monuments types, ceux qui avaient provoqué une émotion esthétique, et vous sentiez qu'il y avait des monuments qui étaient dans la peine.
Oui, malheureusement, aujourd'hui, j'ai voulu faire ce tour de France pour évoquer une inégalité au niveau du patrimoine, pour faire un état des lieux aussi du monument, du petit patrimoine français qui est à la peine aujourd'hui.
Alors le choix, c'était le rythme pédestre. Allez, on entend encore une fois Jacques Lacarrière que vous avez lu avant de partir.
Oui, on me l'a conseillé, lire Jacques Lacarrière, chemin faisant.
J'avais fait une expérience très curieuse dans le Morvan il y a quelques années. J'avais rencontré un paysan qui rentrait des champs, enfin c'est dans le Bourbonnais exactement, ça a son importance, parce que c'est un des derniers endroits où on laboure encore parfois avec des bœufs. Alors j'ai accompagné ce paysan qui rentrait du champ chez lui en suivant les bœufs, et alors là, c'est un temps de marche qui paraît infini. C'est-à-dire qu'on met un temps fou pour aller du champ au village. Et alors c'est une grande patience, et je me dis que pendant très longtemps, la plupart des gens ont vécu dans les campagnes à ce rythme-là. Et que le rythme moderne nous désaccorde totalement. Alors marcher, c'est se réaccorder à ce qui nous entoure.
Il y a bien des différences quand même entre la carrière et vous. Lui, il a un sac à dos. Vous, vous partez pour beaucoup plus longtemps. Et alors, il vous faut quoi en matière logistique ?
Il me faut le matériel pour vivre une année. Donc, le sac à dos ne peut pas porter plus de 20 kilos. J'ai un... contenu de 60-70 kilos. Donc j'ai emporté une charrette avec moi qu'on appelle le Trollix.
Que vous tirez ou que vous poussez ?
Que je tire. Elle est harnachée à moi.
Et à la différence de la carrière qui avait seulement un bâton pour écarter les chiens méchants, vous, vous avez deux bâtons.
Oui, j'ai deux bâtons pour pouvoir non seulement descendre, monter l'école, et aussi pour aller plus vite sur le plat.
La logistique, ça suppose aussi qu'il y ait en arrière un groupe d'amis. Hugues Dagot, qui vous accompagne comme votre ombre maintenant que vous êtes rentré, et puis qui pilotait un peu les choses depuis Paris quand vous étiez en route. Et puis, il y a eu un point d'appui inespéré que vous avez trouvé chez un maire de l'Eure.
Oui, Monsieur Joly, Monsieur Pascal Joly. Sans ces trois personnes, je dirais l'excellent journaliste Hugues Dagot, le maire au grand cœur, Monsieur Joly, et mes parents, j'aurais peut-être pas pu faire tout ça.
Et alors, il téléphonait à tout le monde, Monsieur Joly, à tous ses collègues maires de France, dans tous les endroits où vous alliez passer pour prévenir.
Tous les maires de France, durant toute l'année, jusqu'au 27 décembre, tous les jours, il téléphonait à ses collègues pour essayer de me trouver un gîte, un endroit et peut-être même un contact avec les élus du patrimoine.
Jacques Carrière disait, c'est drôle, les maisons en France portent souvent deux pancartes conjointes, mon plaisir ou mon rêve et chien méchant ou défense d'entrée. Et il notait que dans certaines régions, l'inhospitalité gagnait. On était dans les années 1970. Je voulais vous faire parler de ce thème et vous faire écouter la lecture d'un extrait d'un petit tour chez les Français de Raphaël Kraft. Raphaël Kraft, lui, circulait avant vous en vélo. Ça aide à avoir un vélo, pensez-vous ?
Oui, c'est un avantage.
Pourquoi ?
C'est un objet très familier, contrairement à la charrette.
Oui, mais enfin, il arrive que dans certains troquets, le vélo ne soit pas le passeport suffisant.
À partir d'Évaux-les-Bains, je file vers Minsa par la D19. Halte à Soubrebost, dans un café tenu par un vieillard et seulement fréquenté à cette heure par un homme aux yeux vitreux, à la barbe longue et sale, qui est attablé au milieu de la pièce unique, la cuisine. Il me regarde fixement. Je me suis arrêté non parce que j'avais soif, mais parce que c'est le premier lieu animé depuis 20 km et que je cherche un endroit où dormir. Le client continue de me fixer et après de longues minutes de silence, m'apostrophe. « Qu'est-ce que tu nous veux, toi ?» Une même animosité paraît agiter le patron qui se retourne souvent vers la table tout en rangeant machinalement ses verres. L'autre, à nouveau, « Hey, toi, tu nous veux quoi ?» Soudain, mon vélo tombe, de tout son poids. Je sors aussitôt pour le redresser. Là, panique, le vieux, croyant que je pars sans payer, crie au vol et me menace de son balai. Je tente de le ramener à la raison, mon vélo par terre, mon argent qui se trouve dans ma sacoche de guidon. L'autre, maintenant, lui aussi sur le perron. « Tu veux quoi, toi ?» il crie. Je tends une pièce de 2 euros au vieil homme qui me l'arrache des doigts. Le barbu crache par terre. Le vieux s'affole. Il dit qu'il part chercher son gendre et un fusil dans la ferme d'à côté.
L'émission d'Alain Le Gougec sur Inter, 116 quai Albert Londres. Et encore Kraft, il est blond avec des yeux bleus. Il est quand même temps, Beckett, que vous donniez votre nom de famille.
Et je m'appelle Mohamed Bekada. Donc, c'est un peu plus difficile pour moi.
Mais le maire de Gagny, quand il prévenait ses collègues, il disait « Il y a Beckett qui arrive ou il y a Mohamed qui arrive ?»
Alors, le premier nom qu'il donnait, c'était Beckett. Beckett arrive, si vous pouvez lui trouver un logement, un contact avec les élus. Ensuite, on donnait le nom de Mohamed Bekada, quand il fallait officialiser la venue. Et là, parfois, il y avait des invitations qui tombaient à l'eau.
Alors, essayons de ne pas généraliser. On entendait dans cette lecture de Raphaël Kraft un écho du Limousin sauvage. La Côte d'Azur, vous avez été favorable ?
Non, pas du tout. J'ai eu le soleil, j'ai eu le beau paysage, mais je n'ai pas eu vraiment le bon accueil.
Bon, on ne va pas évoquer Cannes, Lavandou connu par ses résidences heureuses du Cap Nègre. Je suis quand même étonné du fait que vous n'ayez pas été très bien reçu non plus dans les Alpes.
Oui, il y a une région particulière qui m'a mal reçu, ça a été la Haute-Savoie. La Haute-Savoie, j'ai eu un zéro sur toutes les communes.
L'expérience de l'hospitalité, il y a quand même 20 maires qui vous ont logé chez eux-mêmes.
J'en ai eu, oui, j'ai eu comme le maire de Causse, par exemple, qui m'ont logé un week-end parfois, et qui m'ont vraiment considéré comme parfois leur enfant. C'est ce qui était vraiment génial, j'ai eu un contact humain inoubliable.
Est-ce que vous avez souvent été reçu dans des châteaux ?
Malheureusement, non.
Mais ça fait quand même partie du patrimoine, que diable !
Et quand j'ai contacté les châteaux, il y avait le propriétaire de château qui n'était peut-être pas là, ou alors quand il était là, il ne me recevait pas.
Oui, il y a tout de même une phrase de Victor Hugo, vous vous souvenez ?
Oui,
c'est vous qui voulez la citer.
Je voulais citer une phrase de Victor Hugo qui disait « L'usage d'un édifice appartient au propriétaire et sa beauté à tout le monde ».
Caroline Cartier, dans son émission matutinale à France Inter, il lui arrive d'être invité par des châtelaines, ici la comtesse Carmen de Bernis à Saint-Marcel d'Ardèche.
Eh ben, c'était le château de ma grand-mère, de ma arrière-grand-mère, de mon arrière-arrière-grand-mère, depuis des siècles et des siècles. Ça n'a jamais quitté la famille, le château. Donc, la personne illustre de la famille, c'était le cardinal de Bernis, qui était ministre de Louis XV. Je vais vous montrer la façade sud. On entre chez moi. Une des portails, une des portes.
Combien de surface, ce parc ?
Oh, ça, je n'en sais rien. Parce que c'est mon fils qui coupe les arbres, qui travaille. Et puis, en plus, il a son travail pour gagner sa vie, hein ?
Ça coûte cher, non, entretenir, oui.
Ben, et comment, hein ? Pendant des années, je suis restée seule, mais je montais sur les toits, sur les échafaudages, les échelles. J'ai tout fait. Et autrefois, au temps de la splendeur, quand il y avait 3 jardiniers à l'année, maintenant il n'y en a pas un seul. C'est moi, la jardinière.
Ah, c'est un peu la décadence alors.
Non, ce n'est jamais la décadence parce qu'on se maintient. Et j'ai quand même 88,5. Hein. Alors moi, je le garde parce que... Parce que ça n'a jamais quitté la famille, depuis des siècles. C'est tout. Et puis il y a une vue superbe de la terrasse. Il y a une vue sur Pont-Saint-Esprit. On voit le confluent de l'Ardèche et du Rhône. Et c'est superbe. Et derrière, bah, j'ai le village.
Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Je revois ma blouse noire lorsque j'étais écolier. Sur le chemin de l'école, je chantais à pleine voix des romances sans parole, vieilles chansons d'autrefois. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tant d'insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Où les enfants de mon âge ont partagé mon bonheur. Oui, je t'aime et je te donne ce poème. Oui, je t'aime dans la joie ou la douleur. J'ai connu des paysages et des soleils.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
C'est à Beckett, Mohamed Bekkada, 26 ans, qu'il faut rendre hommage pour sa marche à travers la France. Si on va sur le net et qu'on regarde son site, Ma France méconnue, ça deviendra un jour un livre, on voit l'effort qu'il a fait pour parcourir la douce France. Avec sa carte de séjour, enfin avec ses papiers dans sa carriole. On vous demandait souvent vos papiers ?
On me l'a déjà demandé, oui. C'est parfois des forces de l'ordre qui me demandaient ma pièce d'identité. Ou alors des particuliers qui me demandaient ma pièce d'identité pour pouvoir planter ma tente dans leur champ.
Qu'est-ce que vous écoutiez en marchant ?
J'avais le choix, soit écouter des romans. Ou la radio.
Des romans audio.
Des romans audio, bien sûr.
Ou la radio.
Ou la radio. Ça, c'était lorsque j'étais sur des nationales ou des départementales. Et quand je pouvais prendre des chemins balisés, qui étaient exploitables, j'écoutais le vent, le paysage. Je ressentais, les arbres, les animaux sauvages. J'écoutais le paysage.
Oui, mais moi, j'aimerais mieux que vous me parliez des charmes de la périphérie urbaine, de ces nouveaux monuments historiques que sont les ronds-points. C'est très dur, ça, pour un piéton. C'est impossible, pratiquement.
Le rond-point ?
Oui, et puis la périphérie. Enfin, sortie d'une ville ou l'entrée dans une ville.
C'est ce qu'il y a de plus dur, entrer dans une grande commune comme Bordeaux, Nice ou Paris. C'est très, très dangereux puisque les départementales sont interdites aux piétons. Et comme à Paris, on prend la nationale, c'est une double devoir. Dans ce cas-là, il faut être un peu hors la loi.
Les jeunes que vous rencontriez dans ces quartiers périphériques et à qui vous disiez, des gens de votre âge, moi je vais à la recherche des monuments. Quelles expériences ont-ils d'ailleurs des monuments ? Ils devaient trouver ça parfaitement incongru, votre quête.
La première chose qu'ils me disaient, c'était souvent « mais tu es vraiment fou ». Ce que je leur disais, oui, fou et passionné de patrimoine. À travers mon exploit sportif, j'ai essayé aussi d'attirer, d'aimanter la jeunesse à reconnaître la beauté de ce qui les entourait, le patrimoine historique. Et je pense que ça a aidé.
Oui, mais faut-il encore qu'il soit entouré de beauté ? Les zones que vous décrivez ne sont pas très amènes.
Quand je dis entouré, c'est un périmètre de plusieurs kilomètres, bien sûr.
Voilà. Alors, systématiquement, c'est très important, ça, quand on marche, il faut savoir s'arrêter. Qu'est-ce que vous faites quand vous vous arrêtez ?
Je me ravitaille, je bois, je mange, je m'étire, je me couvre s'il fait assez plus froid, je contacte Hugues Dago pour lui dire, lui donner des informations.
C'est lui qui tient votre site, la France méconnue.
Voilà.
Et puis, vous faites des entretiens.
Oui, beaucoup d'entretiens. J'enregistre beaucoup les élus et les associations du patrimoine historique.
Alors ici, production double Beckett-Dago. Nous sommes à Ilkirch-Grafenstaden dans le Bas-Rhin avec le président d'une association d'historiens du Bas-Rhin. Je vous laisse dire son nom.
Monsieur Zugmeyer.
Un Alsacien qui s'appelait Nicolas Koechlin s'est mis à construire du chemin de fer. La première ligne, c'était une ligne entre Mulhouse et Thann. Et ensuite, sur ses propres deniers, il a construit la ligne de Bâle à Strasbourg. Et par conséquent, l'usine, elle a commencé à fabriquer du matériel ferroviaire. Alors là, vous avez un plan de 1858, donc 20 ans après. Vous voyez l'importance qu'a pris l'usine. Là, on avait ce qu'on avait au départ. Là. Et tout ça, ça s'est déjà ajouté en 20 ans. C'est fantastique. Alors on a eu un grand-mère qui était un Allemand, il s'appelait Jacob Mesmer, qui était donc le directeur de l'usine à un moment donné. Et il est devenu maire en 1860. Et c'est sous son mandat, le dénommé Bugatti, a construit des voitures à Ilkirch. Malheureusement, les dirigeants de l'usine n'ont pas cru à la voiture automobile. Ils disaient « c'est pas démocratique, le transport en commun, c'est plus démocratique ». Donc ils ont continué dans le truc du chemin de fer, le chemin de fer. Bon, Bugatti, finalement, il est en 1909, il a trouvé à Molsheim une usine désaffectée, et donc il est parti à Molsheim. Si nos dirigeants avaient été un peu plus clairvoyants, on aurait peut-être une usine automobile à Ilkirch.
Ilkirch-Grafenstaden, ce qui vous y intéresse, c'est l'usine qui s'est beaucoup développée. L'histoire des techniques, on a commencé à en faire dès les années d'avant-guerre. L'histoire du patrimoine industriel, c'est récent. C'est même d'ailleurs pour vous, Beckett, une découverte.
Une découverte. Le patrimoine industriel n'était pas ma priorité au départ. Au fur et à mesure, j'ai découvert des infrastructures, comme à Rimone, par exemple.
Alors, Rimone, c'est où ?
Rimone, c'est une commune dans les Ardennes, très connue pour son exploitation d'ardoise. Et quand on arrive à Rimone, on découvre cet édifice de plusieurs dizaines de mètres de hauteur qui permettait d'extraire l'ardoise. Et ça fait partie du patrimoine industriel qui m'émeut et qui m'intéresse aujourd'hui.
Mais souvent, ce sont les gens qui ont travaillé, ingénieurs, ouvriers, dans ces établissements industriels à la peine, qui reprennent la mémoire.
Oui, effectivement. Par exemple, à l'Argentière-la-Bézée, ou dans les Alpes, ou encore à Rimogne, ce sont les enfants des anciens miniers qui tiennent les musées de la mine, ou toutes les associations de protection pour le patrimoine industriel.
Vous n'êtes pas allé aux forges de Siam
Non.
En Franche-Comté. Non, je voulais les citer parce que les machines, on ne sait pas très bien comment les faire fonctionner, ces machines du XVIIIe siècle. Alors les meilleurs qu'on ait trouvés, parce qu'ils ont encore les techniques de l'époque au bout des doigts, c'est les Marocains. Je disais ça comme ça en passant. Mais ce qui vous a peut-être étonné, c'était que le patrimoine industriel ou pas, doit être une industrie maintenant. Le monument doit gagner sa vie.
Oui, il doit être autosuffisant. Il doit pouvoir survivre de ses propres moyens, créer des musées, créer des locaux pour les artistes, créer des expositions interactives pour les enfants. Il doit pouvoir être autosuffisant.
Et vous avez des exemples là ?
Oui, par exemple, à Étaples-sur-Mer, il y a une ancienne corderie. À
Étaples-sur-Mer. Parce que vous avez toute la carte de France en tête.
Pas très loin du Touquet. Donc voilà. Dans cette commune, la corderie a été transformée en musée de la marine. et de la pêche. Et ils ont appelé un ancien marin pour pouvoir faire les visites guidées. Donc ils rappellent les anciens qui ont travaillé dans cette corderie pour pouvoir faire, pour pouvoir donner une nouvelle vie à l'édifice.
Mais le marin, il était au chômage.
Oui, il était au chômage, ils l'ont rappelé. Il m'a dit, comme ça, un jour, j'étais au chômage, à cause de la surpêche, je crois, c'est ce qu'il m'a dit. Et je reçois un coup de fil qui me propose un travail dans un musée de la marine. Quel bonheur aujourd'hui.
Et au fond, votre objectif à vous, c'est un jour d'avoir un emploi patrimonial, Beckett, non ?
J'aimerais pouvoir continuer à la promotion du patrimoine, oui.
Alors, le monument doit gagner sa vie, mais le monument... Faut-il que ce soit les particuliers qui le financent ? Alors, il y a eu le temps où l'essentiel de l'argent venait de l'État. Il y a eu une grande époque où les associations, dans les années 1970-1980, se développaient autour du patrimoine. Mais on voit maintenant partout des demandes de fonds, des levées de fonds pour le patrimoine.
Peut-être parce que le patrimoine en a besoin, déjà. Et... aussi, il y a énormément de demandes de subventions pour le patrimoine parce que les privés ne sont plus présents. Donc, les communes demandent un peu plus à l'État et aussi aux institutions.
Oui, alors, il y a le côté subvention, mais moi, je voulais insister sur la levée de fonds privés. Vous-même, vous sollicitez vos futurs lecteurs, vous servez de relais à des petits monuments qui cherchent de l'argent.
Oui, je demanderai aussi au privé d'apporter les subventions à un patrimoine, surtout lorsque le patrimoine a permis à la commune de s'agrandir, d'avoir une explosion économique à une période.
Le patrimoine faisant l'image de la commune, les habitants de la commune ou les amoureux de la commune doivent participer,
oui,
personnellement.
Je pense.
Vous avez rencontré beaucoup de petits monuments aidés par la Fondation du patrimoine. La Fondation du patrimoine a été créée en 1996. À sa tête, il y a des leaders de l'économie dans chaque département, des délégations qui sont dynamiques et une politique de communication bien faite.
J'ai rencontré ces associations et ce patrimoine-là qui sont directement liés à la Fondation. Et très souvent, on me répète qu'il y a plus d'inconvénients que d'avantages d'avoir affaire à ces institutions-là.
D'avoir affaire à la Fondation du patrimoine ?
À la Fondation, à la DRAC, à tout. Bien parce que...
La DRAC, c'est la Direction Régionale des Affaires Culturelles dans chaque région.
Oui, parce que... ils demandent automatiquement de labelliser le patrimoine. Et donc, du coup, ils ne sont plus, entre guillemets, propriétaires. Ils ne peuvent plus prendre les décisions seuls. Et il y a aussi beaucoup d'inconvénients, comme par exemple le périmètre des 500 mètres autour du
l'édifice. Ça, c'est la loi.
Oui, mais quand il n'est pas labellisé, ils peuvent passer outre.
Ah, donc vous avez rencontré, parce que vos interlocuteurs étaient souvent des maires, des élus qui trouvaient la tutelle de l'administration trop lourde.
Bien sûr, administrative. Extrêmement lourde, avec les architectes en chef. Et... oui, oui, j'en ai rencontré.
C'est-à-dire que pour faire une restauration, quand on est inscrit à l'inventaire ou classé monument historique, il faut passer par l'architecte en chef. C'est lui qui va être le maître d'œuvre, même si la commune est le maître d'ouvrage. Mais c'est bien, non ?
Pas forcément. Il y a des maires que j'ai rencontrés qui laissent, qui sont donc la commune est propriétaire du patrimoine. Ils font appel à des artisans locaux pour leur patrimoine, et des architectes locaux aussi, pour leur patrimoine.
Donc, vous n'êtes pas intoxiqué par ce discours favorable à l'initiative concurrentielle libre ?
Je pense simplement que le meilleur moyen aujourd'hui de rénover, de restaurer et donner une nouvelle vie au patrimoine, c'est avant tout de revoir à la baisse certaines factures. Voilà.
Ah, mais vous savez que c'est un très vieux discours. Vous avez 26 ans, Beckett. Regardez, La France défigurée, c'est une émission des années 1970. Un écrivain très conservateur, Michel de Saint-Pierre, eh ben, il parlait déjà comme vous.
Il y a 15 000 personnes pour l'année 1972 qui ont passé une bonne partie de leurs vacances à restaurer, aussi bien d'ailleurs des châteaux ou des monuments, des églises, chapelles, basiliques, oratoires. Sont des gens qui ne demandent rien d'autre que la permission de travailler. Encore faudrait-il d'ailleurs que messieurs les architectes des monuments historiques veuillent bien les encourager comme il faudrait. Naturellement, ils n'ont pas la compétence d'un homme qui passe sa vie à ça. Mais je leur dis, vous êtes trop sévères. Je leur dis, puisque vous avouez, vous-même, que vous n'avez pas les crédits et que vous n'avez pas le personnel pour sauver nos châteaux ou en particulier nos églises, pourquoi n'encouragez-vous pas davantage l'initiative privée?
Vous savez, je pourrais vous citer, moi, des églises qu'on aurait pu tenir hors d'eau il y a 20 ans, comme l'église de Puteaux, maintenant qui va coûter des dizaines de millions à restaurer, maintenant d'avoir obtenu qu'elle soit restaurée. Maurice Druon l'a promis dans son discours public de l'Assemblée nationale. Mais cette église, au lendemain de la guerre, il suffisait de quelques centaines de milliers de francs pour la mettre hors d'eau, pour que la pluie ne la dévaste pas. Il faut donc faire les réparations à temps. Il y a des devis qui sont des deux et trois fois plus chers quand ils viennent des monuments historiques que quand ils viennent d'entreprises privées qui sont tout aussi capables de restaurer. Je connais des propriétaires de châteaux classés qui ont préféré faire réparer par leurs propres moyens en disant ça coûte moins cher que de payer la moitié du devis des monuments historiques pour le même travail. C'est pas normal.
C'est intéressant cet exemple de Notre-Dame de Pitié de Puteaux, parce que je vais vous faire entendre, Beckett, un son en écho. Il peut y avoir, maintenant qu'elle est classée, des abus de propriété de la commune qui veut en faire ce qu'elle veut, en profitant des vacances de Noël.
L'église de Puteaux avait été refaite complètement en 1973 et c'était un magnifique objet de dépouillement dans sa nudité, dans la beauté de ses matériaux. Il y avait très peu de couleurs et brutalement nous nous trouvons dans une église, on va dire rock'n'roll ou baroque relookée. Des paroissiens horrifiés découvrent un cœur rouge, un fond d'église violet, un bénitier violet.
D'après certains bons spécialistes de Puteaux, les choix artistiques seraient de la mère elle-même, Joël Secaldi Reynaud, connue pour son amour des couleurs vives. Mais le problème n'est pas qu'une affaire de goût et de couleur, puisque l'église Notre-Dame de la Pitié est un monument historique et qu'y faire des travaux sans autorisation est un délit pénal. Le ministère de la Culture a donc ouvert une enquête pour savoir notamment s'il est possible d'enlever cette peinture et s'il va y avoir des poursuites judiciaires.
Vous voyez, il y a des maires qui peuvent avoir mauvais goût et faire preuve de précipitation. Ça existe aussi, ça, Beckett.
Il faut tout de même rester fidèle à l'architecture primaire. L'architecture qui a fait naître, qui a donné la beauté de l'édifice. Après, oui, j'en ai trouvé beaucoup du patrimoine qui est souvent religieux, d'ailleurs. Un patrimoine comme, par exemple, la chapelle de Séchilienne. Cette chapelle qui a été restaurée par la commune. C'est dans le Jura. La commune de Séchilienne a restauré sa chapelle et a eu affaire à un architecte en chef qui a imposé une chaudière à plusieurs dizaines de milliers d'euros et une sono digne d'un concert de David Guetta. Et ça a coûté excessivement cher pour une petite chapelle.
Le patrimoine religieux, vous diriez ça comme ceux qui ont lancé la loi de 1913 à la suite de la campagne sur la grande pitié des églises de France. Le patrimoine religieux, c'est celui qui vous a paru le plus en mauvais état.
Malheureusement, oui. C'est le patrimoine religieux qui me fait de la peine. C'est celui qui est le plus en ruine aujourd'hui en France.
Est-ce que vous avez provoqué une prise de conscience de la beauté des lieux qui les entourent à des gens que vous avez rencontrés et qui n'en avaient pas nécessairement le sentiment auparavant?
Mon travail a surtout touché la jeunesse, comme je vous expliquais, par mon exploit sportif.
Oui, c'est vrai.
J'espère. La jeunesse venait me poser des questions et à travers les questions, je les orientais vers leur patrimoine. Parce que malheureusement, les associations de protection du patrimoine sont souvent pleines de retraités.
Et vous en avez convaincu quelques-uns?
Des jeunes? Oui, beaucoup. Beaucoup. J'ai aussi eu l'occasion de m'entretenir avec des classes, avec des collégiens, des lycéens. Donc ça m'a permis aussi d'élargir un peu les générations.
Ce que permet votre site maintenant, Ma France méconnue, ce que va permettre aussi la parution en livre prochaine, j'espère, du récit de votre exploit. Merci à vous.
Merci.
Beckett, l'émission était réalisée par Jacques Sigal avec à la technique Henri Bérec, la préparation Frédéric Martin, Franck Olivard et Ilinka Negulesco.